Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs se poursuivent dans la province pilote du Nord, Ubangi. Ces opérations ont été lancées depuis le 31 juillet 2016 à Guadolité. Comment évoluent ces opérations? Quelles sont les mesures prises par la CENI pour faciliter l'entrée des électeurs dans les centres d'inscription? Eh bien, c'est de cela que nous parlons aujourd'hui avec Monsieur Joseph Sendalusamba, le directeur AI des opérations à la CENI. Alors, première question, Monsieur Joseph, comment évolue l'opération de révision du fichier électoral dans la province du Nord-Ubangi?
Merci pour la question, Monsieur Jody. Et comme vous le savez, depuis le 31 juillet de cette année, nous avons lancé l'opération de révision du fichier électoral à Nord-Ubangi. Mm-hmm. À ce jour, les choses se passent très 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 bien. Les 412 centres d'inscription reçoivent régulièrement les électeurs qui viennent chercher leur carte d'électeur. Au même moment, la CENI s'investit pour que la participation se renforce davantage, pour que, à la fin de la période impartie, nous puissions avoir le plus d'électeurs possible qui seraient venus se présenter pour avoir leur carte d'électeur. Donc, les choses se passent très 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 bien dans le Nord-Ubangi. Mmh.
Et quelles sont les mesures prises par la CENI pour faciliter l'entrée des électeurs dans les centres d'inscription?
Eh bien, comme vous le savez, il y a toujours une file d'attente qui vient, des gens qui viennent chercher leur carte. Alors, parmi les membres du centre d'inscription, il y a le PCI, le président, qui est en charge de la gestion de la file d'attente. À la veille de chaque journée, il apprête un certain nombre de jetons qu'il remet les jours suivants aux requérants qui viennent. Ces jetons portent le code du CI, la date et la signature, le numéro d'ordre, et on le remet au fur et à mesure que on le remet selon l'ordre d'arrivée de requérants au centre. Mm-hmm. Et c'est là en tenant compte de la capacité d'absorption du centre d'inscription. Si un centre d'inscription a une capacité d'absorption de 100, par exemple, électeurs par jour, on s'arrange à ce qu'il y ait plus ou moins 100 jetons disponibles que l'on remet aux requérants qui viennent au centre, de sorte à ce que l'ordre soit respecté, que chacun soit reçu selon l'ordre que porte son jeton. Voilà comment nous gérons la file d'attente.
La file d'attente. Nous parlions tout à l'heure de la distribution des jetons. Vous venez d'ailleurs d'en parler. Alors, que fait la CENI des requérants qui arrivent au centre d'inscription après la distribution des jetons?
Ah ben, ceux-là, ils ouvrent une deuxième ligne et ils attendent qu'on ait récupéré un certain nombre de jetons de ceux qui avaient été servis avant pour qu'eux aussi à leur tour soient servis. Donc, ceux qui viennent après et qu'on ait distribué un premier lot de jetons, on leur demande de prendre place, de prendre une deuxième ligne, et quand on reçoit les requérants et qu'on récupère les premiers jetons, on les remet à ceux qui sont venus après, de sorte à ce qu'il y ait de l'ordre dans la façon de recevoir ou de gérer tous ces requérants qui viennent au centre d'inscription chercher leur carte.
Vous savez qu'en milieu rural, les populations ont souvent tendance à vaquer à leurs activités avant de se rendre au centre d'inscription.
Oui, on le sait très bien, on le sait, nous en sommes conscients, c'est pour cela que la sensibilisation se poursuit. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, le directeur de la sensibilisation et celui de la communication sont en ce moment sur place dans le Nord-Ubangi pour renforcer davantage la sensibilisation. Nous sommes conscients et nous continuons à sensibiliser et en nous appuyant sur toutes les structures possibles pour que le plus d'électeurs possible viennent chercher leur carte. C'est vrai, nous savons bien que le matin, ils sont au champ, mm-hmm. mais
à la pêche
en fait, mais mm-hmm. nous on va leur préférer prendre conscience que sans leur carte, ils ne pas voter. Par conséquent, ils sont obligés d'intégrer dans leur activité quotidienne cette obligation d'aller chercher la carte d'électeur.
Donc avant d'aller au champ ou à la pêche,
ils sont libres, mais les centres sont ouverts pratiquement 10 heures par jour. Mmh. Donc ils ont le temps de passer, de chercher leur carte.
Et voulez-vous rappeler les catégories des personnes concernées par l'opération des révisions du fichier électoral?
Ok. En fait, nous avons d'abord les nouveaux majeurs, ceux qui sont devenus adultes, donc qui ont atteint 18 ans et plus après 2011, parce que la dernière édition date de 2010-2011. Mmh. Ceux qui les sont devenus de l'entretemps, nous les recevons à cette révision. Il y a les non-enrôlés de 2010-2011, pour diverses raisons, il y a des gens qui n'avaient pas été enrôlés, et ceux-là, ils viennent, nous les recevons. Nous avons tous les enrôlés de 2010-2011, nous avons nos compatriotes vivant à l'étranger, et enfin, ceux qui seront majeurs à l'horizon 2017-2018, autrement dit, tous ceux qui sont nés au plus tard, le 31 décembre 2000. Voilà les 5 catégories d'électeurs attendus dans nos centres d'inscription.
La CENI invite les retardataires à se rendre au centre d'inscription, mais quelle est la capacité d'absorption des électeurs par centre d'inscription?
En fait, en moyenne, nous attendons recevoir 65 électeurs par kit. Donc, ça dépend du nombre de kits qu'il y a dans un centre d'inscription.
Généralement, il y en a combien dans un centre?
Bon, ça varie de 1 à 4 kits par centre d'inscription. Donc, il y a des CI qui n'ont qu'un seul kit, il y en a qui en ont 4. Et ça dépend du poids électoral ou de l'électorat attendu. Donc, en moyenne, c'est 65 électeurs par kit. C'est ça, c'est la capacité
d'absorption. Par kit et par jour?
Par kit et par jour, oui.
Ouais. Qu'arrive-t-il si un requérant porteur d'un jeton est absent jusqu'à la fermeture journalière du centre d'inscription?
Malheureusement, son jeton perd sa valeur parce que le jeton n'a qu'une valeur d'un seul jour. Si vous n'avez pas été reçu, ces jours-là, bien votre jeton perd sa valeur. Le jour suivant, vous ne pouvez plus l'opposer à qui que ce soit, vous ne pouvez plus le blandir. Vous devez recevoir les jetons du jour.
Voilà. Donc la validité des jetons, c'est
d'un jour.
Et d'un jour.
Un seul jour.
Pas plus.
Pas plus.
Un jeton raturé sera-t-il considéré?
Non. Nous répétons bien, le jeton doit porter le code ICI, doit porter la signature du PCI, doit porter le numéro d'ordre et la date du jour. Ça, c'est très important.
Parce qu'il y a des gens qui peuvent...
Mais il faut préciser que le premier jour... Il y a un type particulier des jetons, parce qu'en fait, nous utilisons les papiers A4. Mais les autres jours, nous nous servons des résidus des cartes. Vous savez, quand nous sortons nos cartes, quand nous les plastifions, il y a des résidus. Ce sont ces résidus qui nous servent à fabriquer des jetons. Donc, on ne les ramasse pas sur la voie publique pour venir nous tromper.
Qu'arrive-t-il en cas de dysfonctionnement du centre d'inscription ayant entraîné le non-épuisement des jetons du jour?
Là, c'est simple. Qu'est-ce que nous faisons? Le PCI se fait assister du préposé à l'identification pour contresigner les jetons des requérants qui étaient là quand
le PCI, c'est le président du centre d'inscription.
Le PI, c'est le préposé à l'identification.
Okay.
Nous avons dit que le PCI signe, mais dans les cas d'espèce, c'est le PI qui contresigne. De sorte à ce que le jour suivant, ceux-là dont les jetons avaient été contresignés parce qu'il y a eu un incident qui a fait que le CI arrête de le recevoir, ils sont reçus en priorité. Et quand ils viennent, on leur émet le jeton du jour. On récupère celui d'hier pour qu'ils rentrent dans l'ordre. Et souvent, on leur demande d'être là à temps. Parce que s'ils viennent après, comprenez bien que quelqu'un sera venu avant sans jeton la veille, mais on ne va pas le pénaliser pour recevoir quelqu'un qui est venu après parce qu'il avait un jeton d'avis. Donc, ceux qui n'avaient pas été reçus le jour avant, on leur demande d'être là de bonne heure pour qu'ils soient reçus en priorité en présentant les jetons du jour précédent et en recevant les jetons du jour. Voilà comment nous gérons ceux qui auront été victimes d'un incident quelconque qui a empêché le fonctionnement normal du CI.
Et pour éviter des jetons frauduleux, quelles sont les dispositions prises par la CENI?
Mais justement, c'est ce que nous avions dit tout à l'heure. Nous nous servons des résidus des cartes et là, on les ramasse pas sur la voie publique. Et puis, il y a la signature du PCI.
Et il est difficile de frauder dans ce cas-là.
Très difficile de frauder, très difficile. Je ne vois pas comment, enfin, on peut arriver. Mais là, il faut alors arriver à imiter la signature du PCI. C'est déjà une infraction assez forte. Et voilà, ce sont les mesures qui font qu'on n'arrive pas à se fabriquer de jetons et à les utiliser au détriment du bon fonctionnement du CI.
Et qui doit organiser la file d'attente?
Bon, en fait, la file d'attente, elle est sous la responsabilité directe du PCI. Il se fait assister d'un préposé polyvalent et, dans certaines mesures, de deux policiers affectés à la garde du CI. Mais la gestion de la file d'attente relève de la responsabilité directe du président du centre d'inscription. Et comme il ne peut pas être au four au moulin, il se fait assister d'autres agents. Et en l'occurrence, le préposé polyvalent qui, de manière permanente, est là pour voir un peu comment ça se passe. Et il s'est fait accompagner des policiers pour remettre un peu de l'ordre. Mais c'est la responsabilité première du PCI.
Voilà. Et quelles sont ses tâches? Qu'est-ce qu'il fait exactement le PCI pour organiser les files d'attente?
Bon, pour d'abord la file d'attente ou gérer le...
Oui, je parle de la file d'attente. Oui.
La file d'attente. Mais comme je l'ai dit, d'après la première chose, c'est que il a d'abord le périmètre de sécurité qu'il dresse autour du centre pour que les gens ne les franchissent pas comme ils le veulent. Ok. Et il fait en sorte que cette distance soit maintenue pendant tout le temps du déroulement.
Oui.
Et il informe les requérants. De temps en temps, il sort, il parle avec les requérants. Parce qu'en fait, il est à l'intérieur, mais de temps en temps, il sort pour informer les requérants qu'il est là à leur service et qu'ils doivent suivre un certain ordre et que chacun sera reçu parce qu'en fait, on est là pour les servir. Et effectivement, il doit faire passer en priorité des personnes de troisième âge, les mamans qui ont des bébés, les mamans qui attendent famille, les personnes malades.
Les malades.
OK. Oui. On les reçoit en priorité. Donc, il délimite le périmètre de sécurité. Il fait en sorte que la distance soit maintenue, pour que, en fait, il ne soit pas lui-même inondé. Il donne des informations aux requérants sur la façon dont on va les servir. Et puis, il jette un coup d'œil pour voir s'il n'y a pas de personnes qu'il peut servir en priorité.
Mmh. Et les agents de l'ordre commis au centre d'inscription ont-ils accès à l'intérieur?
Non.
Du local?
Le petit local, quoi que petit, représente en fait la CENI. Autant la CENI est inviolable, autant le CI est inviolable. Même le policier affecté à la sécurité ne peut pas entrer dans le CI sans qu'il ait reçu l'ordre du PCI.
Il ne peut pas.
Il faut que le PCI lui fasse entrer. Faites-moi venir l'agent de la police, parce que il y a tel requérant qui perturbe l'ordre, parce que il y a malheureusement un témoin ou un observateur qui ne veut pas se soumettre à la discipline. À ce moment-là, le PCI demande au policier d'entrer et d'évacuer la personne. Mais de lui-même, l'unité de la police ne peut pas mettre son nez dans le centre d'inscription.
Quelles sont les dispositions prises pour bien gérer la file d'attente des électeurs? Au Capi-Service reçoit aujourd'hui Monsieur Joseph Sendalo-Samba, directeur AI des opérations à la CENI. Vous avez des questions et préoccupations? Appelez-nous au 081 800 90 63 94.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radiookapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radiookapi.net, la radio en différé à votre service.
Quelles sont les dispositions prises pour bien gérer les files d'attente des électeurs? Monsieur Joseph Senda, une autre question de savoir, peut-on se faire enrôler plus d'une fois?
Non, la loi ne l'autorise pas. On ne peut marger qu'une et une seule fois sur une liste électorale. Ça, c'est très important parce que, au-delà du fait que le requérant a sa carte, il y a une comptabilité statistique qui est faite, notamment qui intervient dans la répartition des sièges. Donc, lorsque quelqu'un se fait enrôler plus d'une fois, il grossit l'effectif d'une circonscription, ce qui n'est pas normal, et il espère pouvoir voter plus d'une fois, ce qui n'est pas non plus normal. Donc, on ne peut pas émarger plus d'une fois sur une liste électorale. On ne peut pas se faire enrôler plus d'une fois. La loi l'interdit et a des sanctions assez solides contre une telle infraction.
Mmh. Et quelle est la sanction prévue pour un électeur qui s'est fait enrôler volontairement plus d'une fois?
Eh bien, la loi précise que dans les cas d'une personne qui s'est fait inscrire plus d'une fois, seule d'abord la dernière inscription est prise en compte, et puis la sanction, il peut subir une servitude pénale qui va de 1 à 10 ans, et avec privation de droit de voter et d'éligibilité pendant 6 ans. Donc vous voyez que c'est très 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 lourd. D'abord, à notre niveau, nous éliminons toutes les inscriptions précédentes, nous n'en gardons qu'une seule. La personne court une peine allant de 5 à 10 ans avec privation du droit d'éligibilité pendant un temps donné. Je crois que c'est quand même assez fort pour que les gens réfléchissent plus d'une fois avant de prendre un tel risque en voulant chercher une deuxième carte, une troisième carte. Donc ici, nous en profitons pour dire que tous ceux qui auraient été tentés de le faire, qui s'abstiennent parce que ça risque d'être très, très fort pour eux. Si jamais ils tombent dans le filet.
Et
ils tomberont certainement dans le filet parce qu'en fait, nous avons un système de doublonnage et nous détectons les doublons.
Est-ce qu'il y en a déjà eu à Guadeloupe depuis quelle opération?
Il y a eu des tentatives, mais on a réussi à arrêter la machine. Il y a eu des tentatives de gens qui ont tenté de se faire enrôler plus d'une fois. De même aussi que les non-congolais avaient aussi tenté de faire enlever. Vous savez que nous sommes en face de la Centrafrique avec tous les réfugiés. Mais la vigilance de nos agents a fait que toutes ces tentatives aient échoué.
Et quelles sont les informations que les électeurs doivent fournir au centre d'inscription?
Eh bien, il y a 4 blocs d'informations que l'électeur fournit. Le premier bloc, c'est son identité. Et là, nous pensons principalement à son nom, à son poste, à son prénom. Nous pensons à son lieu et date de naissance, au nom du père et au nom de la mère. Ça, c'est le premier bloc d'information qui porte directement sur l'identité de l'électeur. Ensuite, il y a le bloc d'information en rapport avec l'adresse d'origine, la province de la personne, son territoire ou sa ville, sa commune, son secteur ou sa chefferie, son groupement et son village. Ça, ce sont les éléments liés aux origines de la personne. Le troisième bloc d'information, c'est l'adresse de résidence de la personne. Et puisque nous avons ouvert la révision aux compatriotes vivant à l'étranger, il y a le pays de résidence, il y a la province, si jamais on est ici au pays, il y a le territoire, la commune, le groupement, le village où on vit. Et enfin, un dernier bloc, nous avons prévu que l'on puisse aussi avoir des informations sur la profession de la personne, son statut matrimonial et sur la présence d'un handicap quelconque. Ce sont des informations que le requérant fournit lorsqu'il vient chercher la carte d'électeur.
Bien, nous avons deux auditeurs en ligne. Jean nous appelle de Dungu et Paul de Guémena. Jean, bonjour et quelle est votre question?
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, je voudrais savoir, bon, comme la CENI a débuté au nord Ubangi, bon, quand est-ce qu'elle va lancer les opérations électorales dans notre province et qu'est-ce qu'elle va faire comme la sécurité dans notre milieu? Merci, je vous remercie.
Merci Jean de Dungu. Paul, vous êtes à Guémena. Bonjour et quelle est votre question?
Ouais, bonjour monsieur Jody. C'est juste saluer l'invité au plateau et puis tous les auditeurs et puis ma préoccupation est la suivante. Il y a vraiment du mal à gérer des personnes vivant avec handicap dans les files d'enrôlement. Alors je voulais juste en savoir plus par rapport à la disposition prise pour mieux faire et puis aider les personnes avec handicap pour que cela passe un peu rapidement et que cela soit à leur faveur de mieux faire pour être enrôlé.
Bien, merci monsieur Joseph Senda.
OK, voilà, la RFE se fait selon quatre aires opérationnelles. Le Nord Ubangi, c'est une aire opérationnelle pilote. La prochaine aire opérationnelle va prendre les anciennes provinces de l'ancienne province, enfin, les nouvelles provinces de l'ancienne province de l'Équateur, c'est-à-dire le Sud Ubangi, la Mongala, l'Équateur et la Chuapa, plus trois provinces de l'ancien Katanga, le Haut Katanga, le Laba et le Lomami. Ce sont ceux-là qui constituent la prochaine étape à laquelle nous nous préparons d'ailleurs. D'ici là, nous allons recevoir le matériel et la suite nous sera précisée. Ensuite, il y aura une deuxième aire opérationnelle qui va porter sur l'ancien Kivu, c'est-à-dire le nord, le sud Kivu, le Maniema, plus le Tanganyika. Il y aura la troisième aire opérationnelle qui va porter sur l'ensemble des provinces de l'ancienne province de la province orientale, c'est-à-dire le Haut, le Bas-Ouélé, et la Tchopo et l'Ituri, plus le Grand Kassai, c'est-à-dire le Sankuru, l'Omami, le Kassai oriental, le Kassai central et le Kassai. Ça sera la troisième aire opérationnelle. Et la dernière opérationnelle, ça sera Kinshasa, le Congo central, le Bandundu et plus la diaspora. Et chaque fois que nous approcherons d'une aire opérationnelle, des dispositions seront prises et des informations seront données, notamment sur les débuts de l'opération.
Alors, Paul de Guémena veut savoir comment gérer les personnes vivant avec handicap pendant les files d'attente, lors de l'inscription.
D'abord, on leur donne priorité. C'est vrai que quand quelqu'un vient et qu'il ne voit pas, on voit déjà que quelqu'un le conduit. Donc, on le reçoit en priorité.
On ne le fait pas attendre.
Non, on le fait pas attendre. On le reçoit en priorité lorsque le handicap est visible, que la personne ne sait pas parler ou la personne ne sait pas, elle a une audition qui est faible, la personne a un défaut physique quelconque. On le reçoit en priorité. Ça, nos agents sont informés et ils le savent. Et nous ne pensons pas qu'ils aient manqué à cet ordre-là dans un condom. Sinon, alors, ce sont des cas marginaux. Mais sinon, ils ont été instruits pour donner priorité aux personnes handicapées.
Maître Jean-Paul nous appelle de Mbandaka. Bonjour.
Et bonjour, c'est la part de Maître Jean-Paul Kachingo.
Oui, on vous écoute. Quelle est votre question?
Allô?
Oui, quelle est votre question, Maître Jean-Paul? Désolé, il n'est plus là. Il va certainement nous rappeler. Marcel, vous êtes à Kananga. Bonjour et quelle est votre question?
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. C'est Marcel Boutou à Kananga. Je voudrais poser une question à l'invité.
Oui.
Oui. L'invité, est-ce que par cette opération de l'enrôlement, les représentants des partis politiques...
Oui, Marcel, on vous entend pas très bien. Je vais vous demander peut-être de vous déplacer. Ça peut améliorer la qualité de la liaison téléphonique. C'est fait?
Je vais parler?
Oui, allez-y maintenant.
Oui. Est-ce que pendant cette opération, il y a les représentants des partis politiques comme de l'opposition, de la majorité, de la société civile? Et s'ils sont là, quel est leur rôle pour le moment? Et ma deuxième question, si un électeur du sud Oubangui qui se trouve maintenant au nord Oubangui et s'est enrôlé, mais il doit rentrer au sud Oubangui pendant les élections, il va encore s'enrôler pour la deuxième fois au sud Oubangui. Comment la CNI peut prouver que cet électeur s'est enrôlé deux fois?
Merci, Monsieur Joseph.
Merci. La première question nous renvoie à ce que nous appelons les parties prenantes. Chaque fois que nous faisons une pétition électorale, en l'occurrence la révision du fichier électoral, nous recevons des témoins des partis politiques, nous recevons les observateurs, nous recevons les journalistes. Nous ne les traitons pas en fonction de leur coloration politique. Ils sollicitent une accréditation, ils obtiennent selon les dispositions de la loi et ils reçoivent la carte d'accréditation qui leur permet d'accéder à nos centres d'inscription et de suivre le déroulement des opérations dans un cadre légal bien précis. Ils sont soumis à des obligations et ils ont aussi des devoirs. Donc, le compatriote doit retenir que nous avons des témoins, des partis politiques, toutes tendances confondues, nous avons des journalistes, nous avons des observateurs, pourvu qu'ils aient été accrédités et que quand ils se présentent dans un centre d'inscription, qu'ils présentent leur carte d'accréditation et qu'ils fassent leur travail dans un cadre réglementaire donné.
Voilà, quelqu'un qui s'est enrôlé au nord Oubangui, après il se retrouve au sud Oubangui et il s'enrôle une deuxième fois. Comment allez-vous
D'abord, nous voulons apporter une information, c'est que chaque personne doit savoir que c'est là où elle s'était fait enrôler, c'est là qu'elle devra voter. Donc, vous êtes fait enrôler au nord Oubangui, vous voterez au nord Oubangui. Et si à tout hasard, malheureux, il faut le dire, vous faites enrôler au sud Oubangui, eh bien, vous serez détecté parce qu'il y a un dédoublonnage au niveau national qui se fera ici à Kinshasa. Il y a un premier dédoublonnage qui s'est fait au niveau de nos antennes pour détecter ceux qui seraient passés d'un centre d'inscription à un autre à l'intérieur d'un territoire. Il y a un dédoublonnage qui s'est fait au niveau de la province pour voir si des gens sont passés d'un territoire à un autre. Et puis, il y a un dédoublonnage qui s'est fait au niveau national. Lorsque nous aurons terminé l'ensemble de la révision du fichier électoral, nous mettrons toutes nos données ensemble et on va aller checker pour détecter ceux qui se sont fait enrôler plus d'une fois. Donc, ils seront certainement détectés et comme je le disais tout à l'heure, seul le dernier enregistrement sera retenu. On va devoir supprimer les précédents.
Voilà, et on n'est pas autorisé d'être enregistré plus d'une fois.
Pas du tout, pas du tout. Il faut vraiment s'en abstenir parce que les sanctions sont fortes, comme on l'a dit tout à l'heure.
D'accord.
Il faut vraiment s'en abstenir.
Papy et Patrick nous appellent de Kinshasa. Papy, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question, papy?
Bon, ma première question est celle de savoir à quand la fin de l'opération de la révision des fichiers électoraux au nord Oubangui. Deuxième question, pourquoi seulement la CENI a fait le choix d'enrôler le mineur, donc ceux qui n'ont pas encore réalisé 18 ans, comme par exemple ceux qui ont pour le moment 15 ans, 14 ans, la CENI a choisi seulement de les enrôler cette année, 2016, et pourquoi ne pas le faire depuis 2006 et 2011 ? Parce que en 2006 aussi, il y avait ceux qui avaient 14 ans, 13 ans, qui pouvaient avoir 18, 20, 21 ans après 5 ans. Troisième question, par rapport à ceux qui n'ont pas droit de s'enrôler, donc les éléments, la police, l'armée, ces gens-là n'ont pas droit de s'enrôler, les policiers et les soldats. Si un élément s'est présenté devant un agent de la CENI en tenue civile, on va les détecter. Merci beaucoup.
Bien, merci papy. Patrick, vous êtes aussi à Kinshasa. Bonjour.
Oui, mais bonjour, monsieur Jody Kassama. Bonjour, l'invité.
On vous écoute.
Oui, ma question était faite de savoir. Je suis ancien ouverteur de 2011 et de 2006. Je parvenais à enrôler jusqu'à 280, voire même 300 électeurs. Mais qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, cette performance s'est atterrissée à la baisse? C'était ça ma préoccupation.
Merci, monsieur Joseph Senda.
Merci. La première question a consisté à savoir à quand la fin de l'opération dans le nord Oubangui. Et comme nous le savons, nous avons accordé 3 mois à l'opération pilote. Donc nous sommes censés la terminer à la fin du mois d'octobre, parce que nous avions commencé le 31 juillet. Donc il y a tout le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre. Nous allons terminer la révision du fichier électoral dans le nord Oubangui. Alors, la deuxième question portait sur le fait de savoir pourquoi est-ce que de tout le temps, on n'enrôlait pas les mineurs et cette fois-ci, on venait les enrôler. Oui. Eh bien, la raison fondamentale est que chaque fois, les éditions précédentes, nous avions tous les éléments qu'il faut, notamment le calendrier électoral avec une date précise. Nous pouvions à l'avance arrêter une date en sachant qu'à cette date-là, telle personne aura tel âge majeur pour pouvoir voter. Mais là, nous avançons comme nous avançons, nous le savons très bien. Nous pensons que la date la plus avancée serait en fait 2018. Je ne dis pas que c'est en 2018, j'insiste bien sur ça. C'est pour cela que nous avons dit que ceux qui vont passer chez nous, les uns auront une carte portant mention mineur 2017, c'est-à-dire qu'ils sont nés à une date qui leur permet d'être majeur en 2017, puis majeur 2018, ils sont nés à une date qui leur permet d'être majeur en 2018. Dans l'hypothèse forte que nous nous retrouvons en 2018, eh bien, ils vont voter, au lieu que nous soyons obligés encore de dire, écoutez, voilà, il y a une frange de compatriotes qui n'ont pas l'âge, et pourquoi, voilà, on a pris cette précaution-là, étant donné certains inconnus. C'est principalement par rapport à ça que nous avons pris ces précautions-là. Mmh. Alors, maintenant, les policiers, les soldats qui viennent se faire enrôler, c'est vrai qu'on ne peut pas les reconnaître facilement. Mmh. Mais nous savons très bien qu'à la fin de chaque journée, dans les centres d'inscription, on affiche les listes pour que les gens viennent et découvrent éventuellement des gens qui sont encore sous les drapeaux, qui se sont fait enrôler pour qu'ils soient dénoncés. Donc, le fait que nous affichons, c'est une façon, justement, de permettre aux requérants du milieu de passer voir d'abord si leur nom est repris sur la liste et si éventuellement il y a quelqu'un qui les mérite pas et qui est là, un étranger, un policier, un soldat, vous approchez du CI ou du PCI pour dénoncer ces faits-là.
Mais lorsqu'une personne vient se faire enrôler, est-ce que la CENI exige la présentation d'une carte
Oui, nous avons. Si la personne vient avec son permis, si la personne vient avec sa carte d'électeur 2010-2011, si la personne vient avec l'attestation de naissance ou avec le document de pension est délivré par l'INSS, la loi prévoit un certain nombre de pièces, autour de 7 si je ne m'abuse pas. Mmh. Si la personne se présente avec l'une des pièces, eh bien, on reçoit la personne. Mais si par la suite, on s'aperçoit que la personne, malgré la pièce qu'elle avait présentée, qu'elle était même valide, mais que la personne était encore policier en activité, soldat en activité, eh bien, une procédure de radiation est ouverte et permise. Et s'il établit que la personne avait fraudé, on radie la personne de la liste électorale.
D'accord. Patrick est à Kinshasa, il était opérateur de CISI. Il disait par jour, il pouvait enrôler 300 électeurs. Alors, il veut savoir pourquoi cette baisse, parce que vous avez
non,
parlé.
Non, on n'a pas baissé de tous les
vous
temps.
Vous avez parlé des 65.
Mais oui, de tous les temps. De tous les temps, je suis à la CENI depuis 2005. La moyenne, c'est 65. Je dis bien la moyenne. Mais il s'est fait qu'il y a des gens qui arrivent à 300. Je le sais, mais la moyenne, c'est 65. Je parle de moyenne. Il faut comprendre que la moyenne, elle a des valeurs inférieures, des valeurs supérieures, si vous parlez comme ça. Donc, la moyenne est 65, mais nous savons qu'il y a des gens qui sont performants, qui dépassent les 200, 250, qui peuvent arriver à 300.
Avez-vous un message particulier à lancer aux femmes?
Bon, d'abord, nous nous réjouissons que la participation dans l'urbain qui a augmenté. Nous nous en inquiétions au début. Jusqu'il y a quelques jours, nous avons plus ou moins 43% des femmes qui sont enrôlés contre 57%. Donc, parmi les enrôlés, 43% sont des femmes, 57% sont les hommes. Mmh. En principe, la population congolaise est essentiellement féminine. Il y a 51% des femmes, 41% des hommes. Donc, nous voulons bien retrouver cette proportion-là parmi l'électorat du Nord-Ubangi. Il faudra donc que toutes les femmes influentes du milieu sensibilisent les autres femmes pour qu'elles viennent se faire enrôler. Ça fera la joie et le plaisir de tout le monde.
Mike nous appelle des Kolwezi. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Mike. Oui, Mike, quelle est votre question? Il n'est plus là. Djuma est à Kalemi, bonjour.
Oui.
Oui, Djuma.
Oui, je voulais juste demander par rapport au sujet que vous êtes en train de débattre là, par rapport à l'enrôlement au niveau de notre province du Tanganyika ici. À quand sera l'enrôlement dans notre province? Et ça prendra combien de temps par rapport à ce que la CENI a planifié?
Voilà, Monsieur Joseph.
Nous avions dit que le Tanganyika faisait partie de la deuxième aire opérationnelle, le Nord, le Sud, le Maniema, enfin le Nord, le Sud, Kivu, le Maniema et le Tanganyika. Lorsque nous allons nous approcher de la fin de la première aire opérationnelle, comme je le disais, le Sud, Ubangi, le Nord, enfin la Mongala, la Tuapa, l'Équateur, le Haut-Katanga, le Lomami, le Lualaba, lorsque nous allons nous approcher de la fin de la O1, ceux des autres aires seront informés et ils pourront prendre des dispositions. Donc le collègue, enfin que le compatriote patiente, qu'il prenne tout, toute sa patience, il sera informé au moment opportun. Mmh.
Mais que dites-vous de toutes ces personnes qui ne respectent pas la file d'attente? Bon, peut-être c'est une personne influente du milieu ou la personne est trop pressée, elle donne un peu d'argent de pouvoir aux policiers ou on les fait passer rapidement.
Il faut poser la question à la personne si elle est contente et joyeuse de donner l'argent aux policiers. Poser la question à la personne qui vient. Si elle est contente, si elle peut brandir et dire tout haut que j'avais acheté une place. Et si la personne est consciente que ce n'est pas bien, donc ce n'est pas bien.
Alors, quelles précautions la CENI a prises par rapport aux gens qui font ça?
Si le PCI constate que le policier se livre à ces jeux-là, il a le droit de demander qu'il soit prélevé. Qu'il soit relevé et qu'on affecte la porte à notre, qu'on lui amène un autre policier. Si le PC se rend compte qu'il y a un policier qui se livre à ces jeux-là, il demande à ses autorités de le faire partir.
Donc les électeurs doivent dénoncer s'ils constatent des cas pareils.
Il faut que les électeurs les dénoncent. Et si le PCI s'en aperçoit lui-même qu'il a reçu l'information, oui, eh bien, il a le droit de faire partir le policier et de demander à la police de lui affecter une autre unité.
Bien, merci Joseph, Monsieur Joseph Sendarusamba, directeur AI des opérations à la CENI. Bonne journée.
Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.